Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons partir ici à la découverte du contacteur, qu'il soit auxiliaire ou moteur, et nous répondrons à la question « Comment ça marche ?». Alors pour rappel, le contacteur est un composant du démarrage moteur, c'est un préactionneur qui a pour fonction la distribution de l'alimentation sur un circuit, permettant d'établir ou d'interrompre le passage du courant à partir d'une commande électrique, une bobine, et c'est lui qui, grâce à ses contacts mobiles, va permettre la fermeture ou l'ouverture de ces mêmes circuits. Alors comme je vous le disais précédemment, il existe deux types de contacteurs, le contacteur auxiliaire, communément appelé KA, et le contacteur moteur, communément appelé KM. C'est ce dernier qui va le plus nous intéresser, mais comme il est un peu plus compliqué à décrire, je vous propose de commencer par le contacteur auxiliaire KA. Vous verrez que les deux appareils ont des organes internes et des modes de fonctionnement relativement semblables. L'une des grosses différences entre les deux est que le contacteur moteur KM est conçu pour distribuer une énergie de puissance. C'est donc celui qui sera utilisé pour alimenter mon moteur. Mais trêve de bavardage, commençons dès maintenant à étudier le plus simple des deux, c'est-à-dire le contacteur auxiliaire KA. Et pour cette opération, rien de bien compliqué, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur de mon appareil et découvrir comment interagissent ces organes internes. Alors qu'il s'agisse d'un contacteur auxiliaire ou d'un contacteur moteur, mes deux appareils vont avoir à peu près la même architecture interne. Les deux seront composés d'une partie puissance et d'une partie commande, et nous agirons sur la partie commande afin de faire changer d'état la partie puissance. Alors commençons par décrire cette dernière. Elle sera composée de capots de protection supérieure et capots de protection inférieure, chacun d'eux associé à leur capot guide-fil, inférieur pour la partie du bas et supérieur pour la partie du haut. Enlevons maintenant le boîtier d'arc, afin de voir les différents organes composant mon appareil. Il s'agit du capot de protection avant de mon contacteur. Comme leur nom l'indique, ces différents capots auront pour fonction de nous protéger d'un contact accidentel avec la partie puissance, notamment les vis étriers permettant la liaison amont et aval des contacts auxiliaires comme on le voit à l'écran sur notre contacteur auxiliaire, ou les pôles de puissance, c'est-à-dire le même type de contact mais laissant passer plus d'énergie, que l'on retrouverait sur un contacteur moteur. Débarrassons-nous maintenant du socle arrière de mon contacteur et nous verrons apparaître le cliquet et son ressort de rappel nous permettant de fixer ou déposer notre appareillage d'un rail de support. Et enfin, notons sur l'arrière la présence d'un tapis anti-vibration et d'amortisseur. Alors comme je vous le disais précédemment, mon contacteur est composé de deux grands sous-ensembles. La partie puissance représentant les contacts, les vis étriers de connexion permettant le câblage de ceux-ci ainsi que leur support. Et la partie commande, composée d'un circuit magnétique, une partie fixe, une partie mobile, d'un ressort de rappel, puis d'une bobine et ses interfaces de connexion permettant son alimentation. À la mise sous tension de ma bobine, celle-ci va être traversée par un courant et produire un champ magnétique. Celui-ci va avoir pour effet le déplacement du circuit magnétique mobile vers le circuit magnétique fixe et la compression du ressort de rappel. Alors comment ça marche? Bah c'est tout simple, les circuits magnétiques, qu'ils soient fixes ou mobiles, sont composés de fines tôles empilées, serties par des inserts. Ces tôles sont sensibles au champ magnétique et vont être attirées par lui. Celles du circuit magnétique fixe ne pourront pas bouger car elles sont déjà collées à la bobine. Quant à celles du circuit magnétique mobile, elles vont se déplacer vers le cœur du champ magnétique, c'est-à-dire vers le cœur de la bobine. Lors de leur déplacement, elles contraindront un ressort de rappel, dont le rôle sera de repousser le circuit magnétique mobile lorsque la bobine ne sera plus alimentée et qu'elle ne produira plus de champ magnétique. Alors vous vous doutez bien que ce mouvement n'aurait pas d'intérêt si on n'utilisait pas. Et ce circuit magnétique mobile est relié mécaniquement à la partie puissance par une interface nommée porte-contact mobile. Celle-ci va permettre la transmission du mouvement ayant lieu sur la partie commande. Et de fait, les contacts de la partie puissance vont bouger au rythme du circuit magnétique mobile de la partie commande. Ces contacts en se fermant ou en s'ouvrant viendront alimenter ou non différentes fonctionnalités sur mon process et permettront l'évolution des différentes séquences sur celui-ci. Pour une meilleure compréhension du fonctionnement interne de mon contacteur, je vous propose de le faire changer d'état sous trois différents visuels. Premier visuel à gauche, le contacteur tel que vous connaissez dans la vie courante, avec son boîtier de protection. Plus à droite cette fois, le même contacteur, mais avec un point de vue différent, celui de ses interfaces internes. Puis à l'extrême droite, la représentation symbolique du contacteur tel que vous la rencontrez sur les schémas électriques. Je vous rappelle également que quel que soit le contacteur, qu'il soit auxiliaire ou qu'il soit moteur, son fonctionnement interne restera le même. La seule différence est que le contacteur moteur sera capable d'alimenter en son aval des actionneurs de puissance, donc des appareils nécessitant une forte consommation énergétique. Alors je vous présente ici le symbole électrique de mon contacteur auxiliaire. C'est de cette manière qu'il est représenté dans les schémas électriques. et nous allons animer ses contacts et sa bobine afin de mieux comprendre les différentes positions et états que ces derniers prendront. Mon contacteur étant composé de deux contacts NO normally open, c'est-à-dire ouverts au repos, et deux contacts NC normally closed, c'est-à-dire fermés au repos, à l'activation de la bobine, celle-ci va créer un champ magnétique qui, en attirant le circuit magnétique mobile à elle, va créer un déplacement des contacts et donc un changement de position de ceux-ci. Les contacts qui étaient ouverts au départ vont se fermer, quant à ceux qui étaient fermés au départ, ils vont s'ouvrir. Ce changement d'état des différents contacts va créer des alimentations et des interruptions d'alimentation au niveau de mon process et permettre à celui-ci de changer de comportement, c'est-à-dire d'évoluer et de passer généralement à la séquence suivante. Alors voilà pour l'activation de la bobine, parlons maintenant de la désactivation de cette bobine, c'est-à-dire l'interruption de son alimentation et donc la disparition du champ magnétique. À la disparition du champ magnétique, le ressort de rappel qui était contraint par celui-ci va retrouver sa position normale et s'expandre à nouveau, tout en repoussant le circuit magnétique mobile et donc les contacts qui lui sont liés, permettant ainsi aux contacts de retrouver leur position de départ, c'est-à-dire deux normalement ouverts et deux normalement fermés. L'identification de ces contacts est assez aisée. Les contacts auxiliaires sont composés de deux chiffres, une dizaine et une unité. La dizaine représente le numéro d'ordre et permet de différencier les différents contacts entre eux. La dizaine pour le premier contact, la vingtaine pour le second, la trentaine pour le troisième et la quarantaine pour le quatrième. Quant aux unités, elles représentent la nature même du contact. Contact 1-2 pour un contact NC, c'est-à-dire normalement fermé au repos, et contact 3-4 pour un contact NO, c'est-à-dire normalement ouvert au repos. On retrouvera à peu près la même chose sur les contacteurs de puissance, c'est-à-dire les contacteurs moteurs. Simplement, au lieu de n'être composés que de contacts auxiliaires, ils seront également composés de pôles de puissance. Ceux-ci sont également des contacts, mais à contrario des contacts auxiliaires, ils possèdent un pouvoir de coupure, c'est-à-dire qu'ils vont être capables d'interrompre des courants de forte intensité. Le contacteur moteur sera donc composé d'une bobine, d'un ou deux contacts auxiliaires, et généralement de trois contacts de puissance permettant la distribution du courant triphasé au moteur. Ceux-ci seront numérotés 1-3-5 sur la partie amont et 2-4-6 sur la partie aval. Et comme je pense vous l'avez compris, à l'alimentation de la bobine, celle-ci va créer un champ magnétique qui va attirer à elle le circuit magnétique mobile et entraîner dans son déplacement les contacts auxiliaires et les pôles de puissance. Ces contacts vont ainsi changer d'état et permettre l'évolution de mon process. Il faudra attendre la désactivation de la bobine afin qu'ils retrouvent leur état d'origine. Alors pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, le choix d'un contacteur de puissance, dit aussi contacteur moteur, il va être fonction de la nature et de la valeur de la tension du réseau. Alors la nature, est-ce qu'il s'agit d'un courant continu ou d'un courant alternatif? Et la valeur de tension, c'est quelle est la valeur de la tension du réseau que mon contacteur va distribuer en son aval. Le choix de ce contacteur va être aussi dépendant de la puissance installée, des caractéristiques de la charge qu'il va alimenter, des exigences de service désirées, c'est-à-dire du nombre de cycles qu'il devra effectuer sur un temps donné, mais également de la nature d'alimentation de la bobine, c'est-à-dire un courant continu ou un courant alternatif, ou encore de sa valeur de tension d'alimentation. Comme vous le voyez, ce choix dépend de multiples facteurs que je n'aurai pas le temps d'analyser ici. C'est pourquoi je vous propose de nous retrouver dans une prochaine vidéo où l'on analysera ces critères et ces choix. C'en est donc fini pour celle-ci. Merci beaucoup et à très bientôt.